Culture vive, Yasmine Chouaki.
Un petit peu de Finlande, un chouïa de Java, une grosse louche d'humour ch'timi. C'est le Père Noël qui repasse une deuxième fois par la cheminée de Culture Vive, le traîneau coince un peu, je comprends pas. Alors Paulina Zidi, du haut de votre mémoire d'enfant, car vous êtes encore une enfant, vous en savez des choses sur la Java?
Oui, enfin ne comptez pas sur moi pour danser. Hein. En revanche, laissez-moi vous parler d'un spectacle musical, la Java des mémoires.
Sophie Torlotin, vous avez une tête de bonne cuvée 2008. je parle de cinéma. Ah oui.
Ah ben oui, je vais vous parler des ch'tis, je vais vous parler de l'Oscar pour une Frenchie Marion Cotillard et puis de la Palme d'Or de Cannes pour Entre les Murs.
Sona Egruc, au pays des Rennes, c'est ce que vous vous êtes offert il y a quelques jours, Mehdi Benchella.
Oui, une visite en Finlande, le pays du Père Noël, de la neige abondante, des rennes et des traîneaux.
Hop, hop.
Santa Lucia, Santa Lucia, Doi vod mercahus, Singer met andaius, Santa Lucia, Santa Lucia, Nathem basturastum,
à pas lourd, Sainte Lucie brillante, illusion, des paroles me semble-t-il napolitaines sur ce chant de Noël finnois. Sainte Lucie, ça correspond à quoi là-bas, Mehdi?
Ben, en fait, Sainte Lucie, elle est venue de Suède, la Suède qui a longtemps occupé la Finlande, et finalement ça s'est généralisé, maintenant quand même tout le monde en Finlande, en tout cas une grande partie de la population la fête. Alors elle est célébrée le 13 décembre, et à l'origine, Lucia c'est une jeune Sicilienne qui préféra mourir plutôt que d'accepter l'homme que son père lui imposait. Et lors de la Sainte Lucie, une jeune fille blonde est revêtue de blanc et porte sur la tête des bougies. Et chaque année, une fille est ainsi élue à Helsinki pour représenter Lucia. En son honneur, il y a une procession de femmes qui est organisée à travers toute la ville. Mais bon, Sainte Lucie, elle fait partie avec l'avant des événements importants qui précèdent la fête de Noël en Finlande. Mais en fait, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais le Père Noël, la vraie patrie du Père Noël se trouve en Finlande.
Je sais que le mythe se perd dans la nuit des temps. Je ne savais pas qu'il était né du côté des neiges.
Ah bah alors pour les Finlandais, il vit en Laponie, sur le mont Korvatunturi, environ à 800 km au nord d'Helsinki, juste en dessous du cercle polaire. Alors Korvatunturi, ça signifie le mont aux oreilles, parce qu'au sommet, il y a des sortes de grandes oreilles qui permettent d'entendre les doléances des enfants à travers le monde, les enfants sages évidemment.
Ah, forcément. Bon, bah c'est bien. Et alors, vous avez rencontré des enfants sages, forcément, sur votre chemin?
Oui, j'ai rencontré des enfants sages, bien sûr. Maintenant, les enfants sont très sages. Mais est-ce que ça vous intéresse de savoir un peu d'où ça vient, ce mythe, un petit peu, du Père
Mais
Noël?
Mais oui, je croyais que vous venez de me le dire, voyez.
Non, en fait, c'est assez compliqué.
D'accord.
C'est assez compliqué parce que...
Alors, faisons simple.
Voilà, il y a de nombreuses origines au mythe du Père Noël. Alors, probablement, ça vient de Saint-Nicolas, le Saint-Nicolas chrétien, qui vit au 4e siècle en Turquie. Et plus tard, ça a été transformé en Sinterklaas, et en Hollande. Et puis, ça va devenir Santa Claus aux États-Unis au 19e siècle, puis enfin le Père Noël. Quoi qu'il en soit, les Finlandais, eux, ont un folklore très puissant autour du Père Noël, et ils sont persuadés donc qu'il est originaire de Laponie. La fête du Père Noël est célébrée le 24 décembre en Finlande, et il y a un certain nombre de rituels. Par exemple, ils vont dans les cimetières pour rendre visite à leurs morts, et ils allument comme ça des sortes de marées de bougies qui déposent sur les tombes, donc tous les cimetières sont illuminés, c'est assez impressionnant. Et puis sinon, ils vont au sauna, évidemment, ils font un sauna de Noël, et puis ils chantent en famille. Mais le mieux, c'est d'entendre Mimi, une jeune Finlandaise de 11 ans, qui nous raconte comment se passe Noël en Finlande.
On va au sauna et après on attend Père Noël et on mange et on fait des maisons de biscuits. On fait des biscuits et après on fait un truc qu'on colle tous les morceaux et après on met des bonbons et comme ça. Parce que ça va faire joli et comme ça.
Est-ce qu'il y a un arbre de Noël aussi?
Oui, on peut faire des animaux et des hommes, des humains ou quelque chose comme ça, des personnes.
Alors le Père Noël, il est finlandais?
Oui. Il habite à Korvatunturi et c'est en Laponie et il est à côté à Rovaniemi il y a une place pour les touristes pour aller regarder, parce que dans le Corpatunturi on peut pas aller parce que c'est un peu, c'est à côté Russie et c'est, il y a pas très bien pour aller là-bas, c'est, il y a beaucoup de neige et comme ça c'est difficile pour aller là-bas.
Et comment c'est cet endroit?
On sait pas très bien, mais il y a les maisons où il y a les il y a Père Noël et Mère Noël et les lutins qui aident Père Noël pour faire les cadeaux.
Donc le Père Noël, il est pas tout seul?
Non, il y a beaucoup de lutins et Mère Noël.
Et comment est-ce que ça s'organise alors? Comment est-ce qu'il fait
Et les lutins font les cadeaux et il y a comme ça. Et après, il aide pour mettre dans un, pas une voiture, mais ça vole. Je sais pas c'est comment on dit en français, mais quand même après, Père Noël, il va dans la maison et met les cadeaux pour les enfants, et peut-être les enfants dans des biscuits ou chantent pour lui.
Faut lui écrire à Corvatunturi?
Oui, parce que après, si on peut-être écrit pas, il ne sait pas très bien, mais comme il y a les lutins, il écoute tous les endroits. Il vient, on peut pas les voir, mais quand même, ils écoutent. Mais il voit est-ce que les enfants, c'est, ils sont très gentils ou pas gentils et comme ça.
Comme ça, vous qui revenez de Finlande, Mehdi, est-ce qu'on vous a offert le fameux glögi?
Ah oui, bien sûr. Vous voulez connaître la recette? Il y a du vin rouge, la girofle, la cannelle, des baies. Enfin, c'est très très bon, je vous conseille.
Ça vous réussit en tout cas.
Ah non, cherchez le 1, 2, 1, 2, 3.
Ouais, parce qu'il faut que la sorte de l'eau alors.
Ah d'accord.
Ça y est, on parle juste timide.
Ils font des hauts à la place des A, des queues à la place des cheux. Et les cheux, ils les font, mais à la place des cheux, je les fais là.
Et c'est comment la vie là-bas, tous les jours, je veux dire, c'est tranquille, non?
Dur.
Il fait très froid.
Ouf. En été, ça va, parce que tu as 0, 0, 1. Mais l'hiver, ça descend. Moins 10, moins 20, moins 20, moins 30. Tu dis, je reste couché, il te fout du moins 40, tu vois?
Moins 40?
C'est le Nord.
Eh oui. Même ceux qui ne l'ont pas vu, et j'en suis, connaissent le mot biloute, terme très affectif puisqu'il désigne aussi le sexe de l'homme. Donc notre vocabulaire s'est considérablement enrichi grâce au film de Danny Boone, Bienvenue chez les Ch'tis, véritable raz-de-marée. Faut-il le rappeler au box-office, 20 millions d'entrées, Sophie Torletta, est-ce que vous comprenez ce succès?
Joker, je peux sortir. Non, écoutez, personne... Non, bon, on pouvait imaginer un petit succès à 2-3 millions. Non, mais là, à 20 millions, c'est plus vraiment compréhensible, c'était pas prévisible. L'histoire de la comédie, c'est une comédie, l'histoire est assez simple, hein, puisque c'est un cadre de la Poste qui se voit muté à son grand désarroi dans le nord du pays, département à la mauvaise réputation, au triste record d'alcoolisme, de chômage, de femmes battues, d'obésité ou de froid et de pluie. Mais contre toute attente, donc ça c'est dans le film, le cadre joué par Kad Merad va découvrir la chaleur humaine, la générosité des employés de son agence et notamment d'un postier campé par l'humoriste Danny Boone, qui est également le réalisateur du film. Sorti dans le Nord en février, une semaine avant la sortie nationale, le film a très vite rempli les salles et a créé donc ce phénomène décrypté par des sociologues, par des philosophes, et finalement ce sont peut-être les historiens qui nous en parleront le mieux dans, allez, une dizaine ou quelques dizaines d'années. Même Danny Boone n'avait pas vu venir ce succès.
Je faisais 30-40 millions, je suis un peu déçu. Non, on peut pas, même encore aujourd'hui, je fais de lapsus, je me trompe, je dis on est à 20 millions, voilà, je dis tout le temps ça. C'est très impressionnant, je me rends compte de ce triomphe quand j'essaie de me promener dans la rue. Je pensais être connu avant, mais non. Je suis très heureux pour le cinéma français, je suis très heureux pour ma région du Nord, je suis très heureux pour tous les gens qui ont participé à cette aventure humaine extraordinaire, quoi. Ce qui est formidable, c'est que j'ai pas fait ce film pour faire 20 millions. Même pas 10, même pas 5, quoi. Donc j'ai fait ce film. Ce film est très personnel, ressemble beaucoup à ce que je suis, à ce que j'ai vécu, à mon enfance, à mes spectacles d'ailleurs aussi. Voilà, quand un artiste rencontre une adhésion aussi énorme, quoi, c'est à la fois très impressionnant, très émouvant. un peu flippant pour la suite, parce qu'on se dit, en même temps, c'est tellement énorme que non, c'est pas flippant.
Et vous disiez que vous étiez connu en France, mais maintenant c'est aussi à l'étranger, parce que le succès du film dépasse largement les frontières.
Oui, c'est impressionnant. Oui. C'est important que le cinéma français soit international, qu'il s'exporte. Et là, en l'occurrence, moi je suis fier que ce soit une comédie.
Alors, et le plus fou, c'est que ça dépasse largement le phénomène franco-français, Sophie. Ça, c'est la première bonne nouvelle. La deuxième bonne nouvelle, c'est que ce succès des Ch'tis, c'est prometteur pour le cinéma français.
Bah, déjà, il y a eu une augmentation de la fréquentation en salle l'an dernier, même si, les 4 mois d'été n'ont pas été si bons, donc sur l'année, bon, ça se compense. Mm-hmm. Et puis que le cinéma français, du coup, dépend de certaines locomotives. Il faut signaler aussi le succès d'un film d'auteur, Entre les Murs, qui a obtenu la Palme d'Or à Cannes et un beau succès public. Enfin, qui a dit que la culture française était en déclin et ne s'exportait pas, hein, puisque Joker. Qui a obtenu l'Oscar de la meilleure actrice cette année?
Marion Cotillard.
Oh, thank you so much. Olivier, maestro Olivier Dahan, you rocked my life. You truly rocked my life. Well, I thank you, life, thank you, love, and it is true there is some angels in this city. Thank you so, so much.
Eh oui, nous aussi, on a senti notre cœur se briser d'émotion pour Marion Cotillard au moment de son Oscar pour La Môme, film d'Olivier Dahan. Autre succès phénoménal à l'étranger, Sophie.
Succès phénoménal où elle interprétait effectivement une Édith Piaf plus vraie que nature, hein, même si les critiques ont quand même souligné qu'elle avait été bien aidée par le maquillage, par la coiffure.
Quand même, c'est un grand travail de comédienne.
Et puis, il y a quand même aussi, même de réalisateur, il y a quand même un plan séquence assez époustouflant où on la voit apprendre la mort de son grand amour, Marcel Cerdan. La caméra la suit comme ça dans l'appartement et en fait, on la voit débouler sur scène comme ça. Donc, un vrai effet, rien que pour ce plan, je trouve que le film mérite d'être vu.
Une môme qui a fait fleurir sur les écrans d'autres portraits de personnalités, les biopics, as you say. Hein, on a eu Mesrine, on a eu Coluche qui a moins bien marché, on a eu Sagan, c'est la mode donc.
Le biopic, c'est tendance, tout le monde y trouve son compte. Le public ravi de voir revivre à l'écran des idoles mortes, les acteurs qui y voient des rôles à Oscar et puis les producteurs qui gagnent de l'argent sans trop prendre de risques. Et cela va continuer en 2009 puisqu'on nous annonce 2 films sur Coco Chanel, dont un interprété par Audrey Tautou. À venir également la biographie de Serge Gainsbourg, mise en image par le dessinateur de BD Joan Sfar. Également attendu La vie d'Yves Montand et celle de Romy Schneider. Bref, peut-être moins de créativité, mais en tout cas un beau filon à exploiter pour les producteurs.
Merci Sophie.
Dans ce spectacle, l'histoire, c'est l'histoire, justement. C'est-à-dire que c'est un spectacle musical qui, au travers des chansons populaires des années à peu près 36 jusqu'à l'après-guerre, jusqu'aux années 50, va raconter l'histoire de France de cette époque-là.
La chanteuse Catherine Delourtet qui s'avance donc sur la piste pour nous raconter la Java des mémoires, spectacle conçu par Roger Louret au théâtre Sylvia Montfort. Donc la Java... Je vois ce que c'est, la mémoire, encore un petit peu, mais la Java des mémoires, c'est quoi, Pauline Azigou ?
C'est un spectacle musical, un voyage à travers les années 30, 40, 50 en musique. En fait, la Java des mémoires, c'est le premier spectacle français de medley. Le principe, c'est la reprise de chansons d'époque, le plus souvent très connues. Et ces chansons mises à la suite des unes des autres racontent une histoire. C'est un procédé qu'on connaît bien aujourd'hui, notamment grâce au succès de spectacles comme Les Années Twist, diffusés à la fin des années 90. Des spectacles que l'on doit aussi à Roger Louret, à l'origine aussi de la Java des mémoires. C'était sa première création du genre en 1991.
Alors, rassurez-moi, c'est un spectacle toute génération ou c'est un poil ringard?
C'est vrai qu'avec le côté medley, c'est plus très actuel, associé au fait que le spectacle a plus de 15 ans et surtout que ce sont des chansons de la première moitié du XXe siècle, le tout accompagné à l'accordéon. Ça pouvait faire pas mal d'éléments qui avaient un côté un peu ringard. Eh bien, pas du tout si l'on en croit Catherine Delourtet.
Alors, on pourrait se le dire, mais je crois que non, parce que nous, on en a la preuve tous les soirs, puisqu'on voit les spectateurs, et à la fin, on chante avec eux un petit peu des airs, donc on chante le petit vin blanc, la java bleue, et c'est pas toujours nos aînés qui chantent le plus fort, c'est-à-dire que on se rend compte qu'il y a des jeunes, hier soir, par exemple, on avait une classe de jeunes filles, et c'était les premières à chanter ces chansons-là. Alors, je crois, enfin, moi, ça m'avait marqué quand on avait créé le spectacle, c'est qu'il y a on connaissait déjà beaucoup des chansons qu'il y avait dans ce spectacle. Alors, ça fait partie sûrement de notre mémoire collective inconsciente. Oui, on a eu besoin d'apprendre un peu les textes, mais tous les airs, on les avait. On avait déjà l'impression de les connaître, ces chansons. Et je crois que ça, c'est encore vrai aujourd'hui.
Donc, si je comprends bien, notre acrobate, c'est un spectacle qui revisite notre histoire de France, avec de temps en temps des zooms sur des temps forts, comme la résistance par le swing à l'époque des Azous.
Exactement. On retrace l'entre-deux-guerres d'abord, la guerre 39-45, avec des chansons plutôt connues, hein, pour n'en citer que quelques-unes. On a la Java bleue, le chant des partisans, même la Marseillaise, et d'autres que l'on découvre, notamment dans la partie, comme vous le disiez, celle de la période des Azous, un mouvement culturel qui a vu le jour pendant l'occupation et que le spectacle met particulièrement en avant.
Alors les Azous, c'est un mouvement qui s'est produit un petit peu en réaction avec l'occupation allemande. Et ce sont des gens qui se sont mis ensemble, qui ont changé leur façon de s'habiller. Si vous voulez, qui se sont mis un petit peu en rébellion et qui ont montré cette rébellion. C'est-à-dire qu'ils arrivaient, ils avaient des vêtements à carreaux, ils se penchaient un peu en avant pour marcher. Enfin, tout d'un coup, ça a été comme... pas un feu d'artifice, mais un feu de couleurs et de rythme, puisque ça swingait beaucoup. C'était un petit peu avant, c'était le rock américain, quoi. Déjà, ils ont amené une espèce de rythme musical et ils se sont mis face à l'ennemi, quoi, comme ça. Ils étaient surtout reconnaissables. Voilà, et Jean Marais, par exemple, a été très important dans ce mouvement-là.
Et c'est peut-être un des tableaux les plus dynamiques du spectacle.
Oui, parce que là, vu qu'il y a du swing, c'est vrai qu'on danse un peu, mais c'est surtout c'est plein d'humour, mais... Par exemple, dans le spectacle, on se rend compte, alors c'est Roger qui parle très très bien de ça, qui dit que dans ces périodes sombres, il y avait comme une envie décuplée de vivre, et toutes les chansons, c'est pas un spectacle triste, parce que toutes les chansons, il y avait beaucoup de chansons drôles, il y avait beaucoup de chansons qui étaient justement en réaction par rapport à cette époque, quoi. Et les gens avaient envie de vivre, et ça transparaît, je trouve, dans toutes les chansons de l'époque.
Ça s'appelle la Java des mémoires et c'est donc jusqu'au 11 janvier au théâtre Sylvia Montfort à Paris. Merci à tous, merci à Florence Ponce, à Nicolas Catenet pour la réalisation, à David Costa pour la technique. Qu'est-ce qui va se passer demain? Eh bien demain on se retrouve autour de la bande dessinée très spirituelle de Bernard Cozet, Elle ou 10 000 Lucioles, qui vient de paraître aux éditions du Lombard. À demain.
The fire is so delightful, and since we've no place to go, let it snow, let it snow, let it snow. It doesn't show signs of stopping, and I brought some corn for popping. The lights are turned way down low. Let it snow, let it snow, let it snow. When we finally kiss goodnight, how I hate going out in the storm.